Alors, j'ai demandé à certains jeunes là de me dire quelles sont les questions que ces textes leur posent. Alors, la première que je retiens concerne la fin de l'Évangile. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc Jésus paraît être contradictoire. Jean-Baptiste est le plus grand des hommes, le plus grand des prophètes, et en même temps, c'est le plus petit. Il est plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Donc comment comprendre ce que Jésus nous dit ici? Eh bien, Jésus est clair dans ce verset ce que nous allons vivre au moment de notre mort, au moment où nous allons entrer dans le paradis, le royaume des cieux qui sera éclatant, qui sera plénier. Dieu va nous transformer de telle manière qu'en quelque sorte nous serons méconnaissables. Nous serons toujours le même à la base, mais nous serons profondément méconnaissables, tellement grandis, tellement perfectionnés, que ça n'aura pas grand-chose à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui. L'image qui est largement utilisé pour la résurrection, pour nous aider à comprendre la résurrection de la chair, c'est celle du papillon, de la chenille qui devient un papillon. Mais même sans parler de la résurrection de la chair, après notre mort, lorsque nous entrerons dans le royaume des cieux, nous serons déjà un peu comme un papillon. Aujourd'hui, nous sommes des chenilles, peut-être des belles chenilles, mais nous serons des papillons. Au royaume des chenilles, Jean-Baptiste est peut-être le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais à côté des papillons, il n'est pas grand-chose encore. Parce que Jean-Baptiste, quand il est entré au ciel, a vu son humanité se déployer comme il ne pouvait pas l'imaginer auparavant. La chenille ne peut pas imaginer, elle qui marche, qui se nourrit pour la suite, parce qu'elle a une faim immense. La chenille marche et ne peut pas s'imaginer qu'elle engrange de la nourriture pour avoir l'énergie suffisante pour se transformer en papillon. Et la chenille, lorsqu'elle entre dans cette période où elle constitue son cocon, peut-être se dit, je constitue un espèce de cercueil et je vais mourir là, mais c'est comme ça que je dois faire. Et la chenille va être secouée par les soubresauts au début de cette transformation quand elle va devenir un papillon. Eh bien, Jean-Baptiste ne pouvait pas imaginer ce qu'il deviendrait au royaume des cieux. Eh bien, nous sommes des belles chenilles, peut-être. On galère un petit peu, on est sur nos branches, parfois on tombe, allez, il faut se reprendre le chemin et puis aller se nourrir. Mais ce que nous serons sera extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, mais je le dis facilement aux enfants. Vous savez, les super-héros, c'est bien, hein ? Ils ont des pouvoirs assez forts, mais ça n'est rien à côté des pouvoirs de Jésus après sa résurrection. Et ça n'est rien à côté des pouvoirs que nous aurons quand nous serons au paradis. Rien du tout. Ce sont des belles histoires qui nous aident à comprendre un petit quelque chose de ce que nous vivrons aussi, de manière particulière. Donc, Jean-Baptiste est la plus grande des chenilles, mais par rapport au papillon, eh bien, il est un peu moins qu'un papillon, beaucoup moins qu'un papillon. Vous comprenez. Maintenant, deuxième question, c'est Dans la première lecture d'Isaïe, on a l'impression que toutes ces promesses faites par Dieu, extraordinaires, vont tomber dans le bec des hommes sans qu'ils l'aient véritablement mérité. Ça va venir, voilà, c'est inéluctable, les promesses vont s'accomplir. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire des efforts pour avancer ? Puisque Dieu va donner ses promesses, va les accomplir. Eh bien, alors, c'est vrai peut-être, Dieu va accomplir ses promesses. Et cela nous réjouit profondément. Dieu va nous transformer comme une chenille transformée en papillon. C'est extraordinaire. Mais cela aussi, en partie, dépend quand même de nos mérites. C'est-à-dire que la chenille qui ne s'alimenterait pas, eh bien, n'aurait peut-être pas suffisamment d'énergie pour devenir papillon, ou va devenir un papillon, mais qui peut-être ne va vivre que quelques jours, comme cela arrive très souvent. Autrement dit, tous les efforts que nous faisons sur la terre pour suivre le Christ, pour nous ouvrir à l'amour réel de Dieu pour les autres et pour nous-mêmes, tous ces efforts vont nous profiter par la suite. Tout ce que nous allons engranger va être transformé par Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, à partir de ce que Jésus lui a dit, nous dit « Nous sommes tous des récipients » fait pour recevoir l'amour de Dieu. Et recevoir l'amour de Dieu nous comble. Nous, voilà, c'est le but de notre vie. Eh bien, au ciel, ces récipients vont avoir la taille, en quelque sorte, qu'on leur aura donnée sur la terre. Autrement dit, tous ces efforts que je fais aujourd'hui pour apprendre à aimer, à sortir de moi-même, de mes petites habitudes, à m'ouvrir aux autres et à m'ouvrir à l'amour de moi et puis de Dieu, bien sûr, tout cela va faire que je vais devenir un grand ou plus petit récipient au ciel. Il y a quand même une justice. Dieu propose à tous son salut, mais celui qui n'aura pas fait beaucoup d'efforts, eh bien, sera comblé d'amour, mais à sa mesure. Alors, maintenant, je voudrais passer à l'incompréhension de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a entendu dire ce que Jésus fait. Jean-Baptiste est en prison. Il entend dire ce que Jésus fait. Et pourtant, lui qui est le plus grand des prophètes, fait poser la question par ses disciples à Jésus, « Es-tu celui que nous devons attendre ou devons-nous en attendre un autre ?» Autrement dit, Jean-Baptiste est perturbé profondément par ce qu'il entend. Jean-Baptiste attendait autre chose de la part du Messie. Et si vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste, a dit la semaine dernière, eh bien, c'est vrai que ce que Jean-Baptiste nous disait nous laissait un peu mal à l'aise. Il y a une vision un peu violente, quand même, de l'action du Messie qui est proposée par Jean-Baptiste, qui nous met mal à l'aise parce qu'elle ne correspond pas exactement à ce que Jésus a dit, a fait. Oui, Jean-Baptiste attendait un Messie énergique. Souvenez-vous, la cognée est au pied de l'arbre, ça veut dire la hache est au pied de l'arbre, on va couper tout ce qui doit être coupé. C'est violent. Jésus arrive, il guérit, il enseigne, il manifeste de l'amour. Jésus est au milieu des hommes, il est patient au milieu de nous. Qu'en est-il de l'œuvre du Messie ? Et derrière cette incompréhension de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va entendre la réponse de Jésus et va réfléchir par lui-même. Jean-Baptiste, nous l'espérons, aura compris avant de mourir que Jésus est vraiment le Messie, mais que lui n'est qu'un homme et ils n'avaient pas tout compris du Messie. Eh bien, cela rejoint aussi une incompréhension que nous pouvons avoir très souvent dans l'histoire du monde et aussi dans notre histoire. On peut se dire, mais c'est pas possible, ça fait 2000 ans que Jésus est né, presque. Qu'est-ce que ça a changé dans notre monde? Il y en a marre? Est-ce que Dieu va pas se manifester? Comme demandait un jeune de la Joliverie mercredi, mais pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustices? Voilà. Qu'est-ce que Dieu fait? Vous dites que Jésus est Messie, Sauveur du monde, alors qu'est-ce qu'il a fait véritablement? Ah oui, mais Jésus n'a pas fait, n'a pas réalisé son œuvre comme on pouvait se l'imaginer. Et il y a quelque chose de profond derrière cela. Nous sommes bien des fois inquiets, et nous voudrions que les choses se résolvent rapidement. Eh bien, Jésus nous dit, oui, tu as le désir de sortir du problème que tu connais aujourd'hui. Tu voudrais que je claque des doigts pour que le problème disparaisse. Eh bien, non. Ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Moi, je suis venu vivre avec vous. J'ai supporté vos simagrées, j'ai supporté vos impatiences, j'ai supporté vos incompréhensions. J'ai vécu ces situations difficiles au milieu de vous et je suis resté patient et je vous ai aimé. J'ai avancé petit à petit au milieu de vous et je vous ai annoncé le royaume de Dieu. Je vous ai annoncé mon amour. Eh bien, quand nous sommes impatients, désireux que ça change, eh bien Dieu nous dit, sois patient, crois en moi, ne fuis pas la difficulté. Parfois tu te mets en colère parce que tu voudrais que les autres t'obéissent et changent, mais tu ne te rends pas compte, c'est toi qui dois changer. Alors au lieu de te mettre en colère, eh bien, parle-moi, dis-moi ta colère, essaye de réfléchir. Peut-être ce qui est à changer est en toi et moi je peux t'aider à changer ce qui est à changer en toi. Et vous les jeunes, je vous le dis, parfois vous en avez marre de vos parents, non? Les parents peuvent témoigner, hein? Et les parents aussi en ont marre de vous, parfois. Vous voudriez que vos parents changent, qu'enfin ils vous comprennent, non? Eh bien, Jésus vous dit, le problème n'est pas que du côté de tes parents. Le problème est aussi de ton côté. Et si tu es en colère, c'est peut-être parce que toi, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à faire comprendre à tes parents ce que tu voudrais qu'ils comprennent. Alors, au lieu de te mettre en colère, au lieu de t'enfermer dans ta chambre et de faire la moue, eh bien, viens, discutons ensemble, moi je vais t'aider, et discute avec tes parents. Voyez, c'est profond, hein. Nous sommes régulièrement tous, les adultes comme les jeunes et les enfants, nous sommes tous impatients et nous voudrions que ça change. Eh bien, nous devons accepter que la souffrance est là, mais que la souffrance peut être celle, un peu comme celle de la chenille qui va accepter de s'immobiliser, qui va presque mourir et qui finalement va se transformer. Il faut accepter de ne pas fuir la souffrance, mais de la vivre avec Jésus. Pour les jeunes qui se sont préparés à la confirmation, vous vous souvenez du DVD que nous avons vu sur Chiara Luce? Eh bien, Chiara Luce, qui est tombée gravement malade d'un cancer à 17 ans, a eu sa période de révolte, a refusé, n'a pas accepté de mourir à 17 ans. Elle est morte à 18 ans. Et puis, elle en a parlé à Jésus. Ça a duré 20, 30 minutes. Ça a été très intense. Et elle est revenue calmée. Et à partir de ce moment-là, elle a gardé un sourire extraordinaire. Au point que son papa disait, oui, elle nous souriait à tous, mais moi, je pensais qu'elle le faisait pour nous. Et donc, je l'ai espionnée à travers le trou de sa serrure. Et j'ai vu que sur son lit, toute seule dans sa chambre, elle gardait son sourire. Et je me suis dit, il s'est passé vraiment quelque chose dans le cœur de ma fille. Voilà, Chiara Luce nous aide à comprendre qu'il ne faut pas fuir la souffrance, il faut l'habiter du plus profond de notre cœur avec Jésus. Je vous lis une parole de Saint Jean de la Croix, et je termine par là, que nous lisions hier dans l'office des lectures. Oh, si l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières. L'âme, y mettant sa joie et ses désirs, afin de comprendre avec tous les saints quelle est cette largeur, cette longueur, cette hauteur et cette profondeur de l'amour de Dieu, l'âme qui désire vraiment la sagesse, désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix qui est le chemin de la vie. Mais peu y entrent. Tous veulent entrer dans les profondeurs de la sagesse, des richesses et des délices de Dieu, mais peu désirent entrer dans la profondeur des souffrances et des douleurs endurées par le Fils de Dieu. On dirait que beaucoup voudraient être déjà parvenus au terme sans prendre le chemin et le moyen qui y conduit. Comme Jean-Baptiste, nous sommes impatients de voir Dieu réaliser son dessein. Eh bien, acceptons de l'accompagner humblement, avec patience, en supportant ce qui ne va pas en nous, ce qui ne va pas dans les autres, en lui demandant son aide. Amen.